au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mercredi 5 novembre, j'espère que vous avez passé une belle journée à l'émission aujourd'hui avec Pierre Paquette. On va parler de transfuge, le fameux transfuge Chris D'Entremont du Parti libéral, en fait du Parti conservateur vers le Parti libéral de Mark Carney. Mark Carney là, qui s'approche de plus en plus de la majorité. Avec nous également Martin Haché, vice-président du Conseil central Lanaudière de la CSN. Il sera question d'une mobilisation pour dénoncer les actions du gouvernement Legault. Aussi à l'émission, Claude Mousseau, ex-président de la Fédération des Grands Pins de la Valtrie, et Jonathan Fontaine, directeur adjoint du Centre de services scolaires des Samars. On va parler d'un important legs aux écoles. Yves Perron sera avec nous, député de Berthier-Masquinongé au fédéral. Ses réactions au budget Carney. Mais tout d'abord, on en parle du budget Carney dans le monde municipal. Les villes qui attendent toujours qu'Ottawa et Québec s'entendent là, au chapitre des transferts pour les infrastructures et certaines autres demandes qui sont pratiquement tablettées. François Morin qui s'entretient là-dessus avec le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
Guillaume Tremblay, donc, budget fédéral, il y avait des attentes au niveau des municipalités, de l'Union des municipalités du Québec, et force est de constater qu'il n'y a rien de prévu encore pour un transfert d'Ottawa vers Québec, là, des sommes essentielles pour les infrastructures.
Ben exactement, et faut savoir qu'il y avait déjà 8,5 milliards de dollars disponibles pour le monde municipal. Et notre objectif premier, c'est ça, c'est pas dans le dernier budget, c'est le budget d'avant. Et il n'y avait pas eu d'entente entre Québec et Canada. Les autres provinces ont eu ces sommes-là. Donc nous, on demande rapidement au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada de s'entendre pour les sommes annoncées, qui avaient déjà été annoncées dans le dernier budget, parce que faut le savoir que le monde municipal a besoin de ces sommes-là. Là, je pense que avec le nombre d'entrevues que vous faites avec plein de villes au Québec, dans Lanaudière surtout, de votre côté, vous le savez que les projets ne manquent pas, et ces sommes-là, ben, on en a besoin. Puis notre crainte, là, présentement, c'est qu'ils prennent cet argent-là, qu'ils la remettent au fond pour recréer un nouveau programme. Donc, la province du Québec perdrait 8,5 milliards de dollars. Donc, pour nous, c'est dangereux. Donc, on demande rapidement au gouvernement du Québec de s'entendre avec le gouvernement fédéral, parce qu'on veut pas perdre ces sommes-là qui étaient déjà annoncées dans le dernier budget.
Bon, ben justement, là, on annonce, le gouvernement fédéral qui annonce la création d'un fonds pour bâtir des collectivités fortes, sauf que c'est vraiment pas avec de l'argent nouveau, là.
Ben exactement. Puis tu sais, je tiens à vous le répéter, il y a d'autres provinces canadiennes que ces sommes-là sont déjà dépensées. Chez nous, avec la réalité du Québec face au Canada, ben il y a eu des ententes à signer. Les ententes n'avaient pas été signées. Donc, ce que ça veut dire, qu'on prendrait l'argent du Québec, la diviser à l'ensemble des provinces canadiennes. C'est là qu'on demande rapidement au gouvernement du Québec là, de s'asseoir, là, pas dans une semaine. Là. Il faut s'asseoir immédiatement avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que ce 8,5 milliards-là reviennent au Québec pour nos projets québécois, parce que, comme je vous dis, là, on en a des projets. Je pense que juste dans Lanaudière, on pourrait le dépenser rapidement, ce 8,5 milliards-là. Donc, je veux dire, c'est important là, de nous assurer de garder nos acquis au niveau du Québec.
Une autre demande qui était importante, c'est au niveau des logements. Là, il y a quand même certaines mesures là, qui pourraient aider à la construction et, je dirais pas contrer, mais au moins amoindrir les effets de la crise.
Tout à fait. Là, donc, avec le programme Maison Canada, c'est un super de bon programme. On est content de l'entendre. Maintenant, tout est dans la finalité du programme. On va attendre d'avoir les petits critères en bas du document, mais on pense que c'est une bonne augure pour la suite des choses au niveau du logement. Encore, il va falloir que le gouvernement fédéral ait une entente avec le gouvernement du Québec. Il va falloir le faire rapidement parce que l'argent est attendu plus que rapidement. Les villes, on est bien prêtes à donner des terrains, mais s'il n'y a pas d'argent pour construire les immeubles, on n'est pas plus avancé.
Et il y avait aussi de grandes attentes au chapitre de l'itinérance, et là, ben encore une fois, là, on est dans l'attente.
C'est complètement oublié au niveau de l'itinérance dans le budget. Cependant, on peut faire une règle de trois, là, plus qu'on achète du logement, plus qu'on peut enlever de l'itinérance, oui, mais encore faut-il que ça l'avance rapidement, parce qu'il manque énormément de logements pour contrer justement l'itinérance. Mais un ne va pas sans l'autre, pas parce qu'il y a de l'argent pour le logement qu'il ne devrait pas en avoir, pour aider les gens à s'occuper de l'itinérance et les organismes communautaires, les villes. Maintenant, ben on va laisser le temps. Peut-être qu'il y a des petits programmes là que le gouvernement va annoncer au moment opportun, mais rapidement, oui, l'itinérance, c'est un enjeu qui est important dans chacune des villes du Québec.
Est-ce qu'on demeure quand même optimiste qu'il y ait entente entre Québec et Ottawa si on suit de façon bien objective là toutes les démarches qui ont été menées par le gouvernement du Québec auprès d'Ottawa qui n'ont pas donné beaucoup de résultats?
Ben moi, je vais dire il le faut. C'est je veux dire, si on n'a pas ces sommes-là puis que les autres provinces l'ont dépensé, c'est comme une iniquité vraiment absolue, puis ça veut dire qu'on va prendre l'argent du Québec pour financer des programmes canadiens. C'est une question d'équité là par rapport aux autres provinces.
C'était le maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, Guillaume Tremblay, là, qui revenait sur le budget fédéral. On va en parler du budget fédéral aussi dans les prochaines minutes avec Yves Perron, député de la circonscription de Berthier-Masquinongé au Bloc québécois.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Joliette, dépanneur Jean-Louis, dépanneur Filgo, dépanneur Polo, dépanneur Proxy Extra Arnois, Tabagie 636, dépanneur Michel Caram, dépanneur Nico, dépanneur Couchetard, dépanneur Marie, dépanneur Beaussoir Pétro-Canada, Épicerie Forêt et Pharmacie Nancy Gaudreau. À Saint-Charles-Borromée, dépanneur Couchetard, dépanneur Rapido, dépanneur Bonissoir Shell, dépanneur Saint-Charles, IGA Marché C&C Le Thor. À Saint-Pierre, dépanneur J&G, à Notre-Dame-des-Prairies, dépanneur 350 Bonissoir, dépanneur des Prairies et Marché Philippe. Et à Saint-Paul-de-Joliette, dépanneur Bonissoir, dépanneur Proxy Extra et Shell Saint-Paul. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant la liquidation totale, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Procurez-vous le tout nouveau Rogue Rock Creek 2026 à traction intégrale à un taux de financement aussi bas que 1,9% en location 36 mois chez Joliette Nissan.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
Hey, tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitre. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
Avec leur musique des Appalaches et de la Louisiane, Nadine et Samy sont en spectacle au Crapaud le samedi 8 novembre. Les billets sont disponibles en ligne au crapaud.qc.ca.
Après les lunchs, le soccer, puis le ménage, ben j'ai mon voyage. Ça tombe bien, parce que Super C t'accueille à bord du concours J'ai mon voyage. Cours la chance de gagner l'un des 5 crédits voyage de 10 000 $. Pour embarquer, t'as juste à acheter un produit participant puis présenter ta carte moi à la caisse ou en ligne. C'est le temps de troquer la boîte à lunch pour la valise. Puis manque pas ton vol, le concours prend fin le 19 novembre. Aucun achat requis, 18 ans et plus, détails et conditions au superc.ca. Hey, c'est super, Super C.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Donat, Saint-Charles-Borromée, Saint-Lin-Laurentide, Mandeville.
CFNJ, 99.1-88.9.
Des chansons américaines, on n'en joue pas parce que chaque petit geste est important.
La Naudière PM, politique fédérale.
Bon, on est maintenant sur le budget. Michel Arnois, qui a eu l'occasion de s'entretenir un peu plus tôt avec Yves Perron, député fédéral de Berthier-Masquinongé, whip en chef et porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre. Yves Perron, qui a fait part de la position du Bloc sur le budget en matière générale, mais aussi là, quelques points spécifiques et assez intéressants au niveau de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On sait à quel point ça nous touche dans la région de la Naudière.
On parle à Yves Perron, il est le député de Berthier-Masquinongé. Monsieur Perron, comme on peut s'y attendre, votre formation va voter contre le budget.
Oui, parce qu'il faut quand même tenir nos paroles, hein. Puis quand on formule des demandes, puis on dit que c'est un minimum, puis qu'ils sont pas respectés, ils sont pas là du tout, puis on a eu même aucune négociation qui allait dans ce sens-là. Notre responsabilité, c'est de regarder, hein, chaque fois qu'on reçoit un projet de loi, peu importe sur le budget ou autre chose, c'est est-ce que c'est bon pour notre monde? Puis quand c'est pas bon pour notre monde, on essaie de l'améliorer pour que ça devienne bon. Puis si on n'est pas en mesure de le faire, ben on vote contre. Puis là, de toute évidence, on ne voulait pas nous donner la chance de pouvoir améliorer les intentions gouvernementales parce qu'on n'a pas eu vraiment de négociation.
Vous trouvez que le budget qui a été présenté hier offre une vision de l'agriculture portée sur l'exportation? Pouvez-vous élaborer un peu?
Au niveau agricole, oui, on dit qu'il faut stimuler l'exportation puis faire de l'agriculture un secteur clé là-dessus. On est assez d'accord. Par contre, quand on prétend faire des investissements, il faudrait que ce soit de vrais investissements. Entre autres, les programmes d'assurance récolte qu'on appelle l'agri-stabilité au niveau fédéral, ça fait des années qu'on augmente, qu'on demande d'augmenter le seuil de couverture. C'est augmenté. On est content. Puis le plafond d'indemnisation est augmenté de 3 à 6 millions pour convenir à la taille des fermes d'aujourd'hui. Par contre, quand on regarde quelques pages plus loin, on se rend compte que les sommes qui sont mises là pour un total de 33 millions sur 5 ans, ils sont pris ailleurs dans les structures gouvernementales. Puis c'est déjà, c'est juste en tout une autre ligne qui dit moins 33 parce que c'est de l'argent qu'on prend dans le système de fonctionnement. Donc, il n'y a pas de nouvel argent là-dedans. Puis là, l'inquiétude qui vient en tête immédiatement, c'est OK, vous allez le prendre où? Qu'est-ce que vous allez couper pour aller là? Moi, je pense que des programmes pour protection de l'environnement, entre autres, comme les laboratoires vivants, des choses comme ça, sont coupés actuellement. C'est l'impression qu'on a. J'ai pas fini de mon analyse du budget, là, mais pour l'instant, les impressions qu'on a, c'est ça. On vient tanner, en fait. Je vais être bien franc avec vous, M. Arnois, là. On vient tanner de se faire annoncer de l'argent quatre fois. On nous promet, on fait des grands discours, 125 milliards, puis quand tu te mets à fouiller, tu te rends compte que c'est juste 9 milliards d'argent neuf, 9 milliards pour l'ensemble du Canada. Un peu comme quand on dit, on va construire des hôpitaux, on va mettre 5 milliards, mais 5 milliards, c'est le coût d'un hôpital, là. Tu vas le mettre tout dans le Canada. Tu sais, à un moment donné, c'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Le programme de paiement anticipé, si je reviens à l'agriculture, on demandait que ce soit augmenté à 350 000 de façon permanente. Ça, c'est de l'argent que les producteurs agricoles vont obtenir dans certains programmes. Ils peuvent l'avoir d'avance sans intérêt. C'est à 100 000. C'est ridicule pour les tailles de fermes qu'on a aujourd'hui, là. Ben, à chaque année, le gouvernement se refuse de l'augmenter de façon permanente. Il attend toujours que les producteurs agricoles aillent les supplier pour l'avoir. Puis là, ça leur fait des belles annonces à faire à chaque année. Ça, c'est un peu, je vais me permettre d'utiliser l'expression, c'est de la petite politique. C'est de garder les gens dans un état de dépendance. Est-ce qu'on peut régler des problèmes de façon permanente, après ça, travailler sur d'autres choses? C'est ça qui est l'enjeu. La nouvelle façon de faire de la comptabilité est assez extraordinaire aussi, hein?
Vous trouvez pas que c'est une façon créative de présenter les choses?
Ben, créatif est un mot poli, parce que quand on me dit que une dette sur un actif, c'est pas pareil comme une dette pure. C'est vrai que quand tu payes, mettons, tu as une dette d'hypothèque, c'est pas comme une dette d'épicerie, on est d'accord avec ça. Sauf qu'il faut que ça soit vrai. Là, on a mis dans les actifs les transferts aux provinces. Puis on a mis dans les actifs des dépenses courantes qui n'ont aucun rapport avec un actif. C'est comme si moi j'allais à la banque puis je dirais au banquier, hey, moi j'ai donné 1 000$ à un de mes enfants la semaine passée, prête-moi de l'argent. C'est pas un actif, ça. Il n'y a aucun banquier qui va te prêter avec ça, là. Si on utilise cette façon, comme vous le dites, créative de faire la comptabilité de l'État, puis on applique ça aux 10 ans de régime du gouvernement Trudeau, savez-vous qu'est-ce que ça donne?
Vous allez me le dire.
Le gouvernement Trudeau aurait été en surplus budgétaire ou en équilibre budgétaire 5 années sur 10. Tout le monde se souvient d'un gouvernement atrocement dépensier. T'sais. Quand on disait, M. Carney, c'est quand même un tour de maître de faire passer M. M. Trudeau pour la mère économe, là, c'est quelque chose.
Yves Perron, merci beaucoup.
C'était le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Je rappelle, il est whip en chef et porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre pour le Bloc québécois.
Lanaudière PM, éducation.
L'ancienne fondation des Grands Pins de la Valtrie tient sa promesse et dans la foulée de la dissolution, elle lègue 226 000 $ à la communauté, dont 195 000 vont aller aux écoles primaires et secondaires pour la réalisation de projets. On peut écouter là-dessus Claude Mousseau, l'ex-président de la fondation, également le directeur général adjoint au Centre de services scolaires des Samars, Jonathan Fontaine. Régent Turgeon a eu l'occasion de les rencontrer.
Monsieur Mousseau, peut-être m'expliquer le contexte dans lequel on a fait cette annonce ici aujourd'hui à la Valtrie.
La Fondation des Grands Pins, premièrement, ça a été fondé en 1999. On a acheté un site parce que les groupes scouts, ça leur coûtait très cher de louer. Donc, on a acheté une base de plein air. On a acheté une maison qu'on a transformée en base de plein air. On a réussi à fonctionné pendant 20 ans. Et à la fin, mettons, vu qu'on manquait de main-d'œuvre et que ça s'était rendu très épuisant pour moi, ma famille, puis les seuls bénévoles qui restaient, on a décidé de vendre à quelqu'un qui voulait continuer. La pandémie est arrivée, la personne qui a acheté, malheureusement, a dû revendre. Et c'est maintenant quelqu'un qui veut en faire sa maison, qui a acheté la base. Okay. À ce moment-là, ben, on s'est associé avec des Samars parce qu'on voulait avoir l'entièreté des montants amassés, le 226 000 $. Okay. On voulait pouvoir le donner entièrement aux jeunes de la Valtrie. Fait que ça a fini par, justement, 6 000, un petit peu plus que 6 000 aux travailleurs de rue qui s'occupent aussi des jeunes. Ouais. 30 000 à la maison des jeunes de la Valtrie qui avaient un projet d'agrandissement. Et le 190 000 aux écoles de la Valtrie. 65 000 à Delarive, l'école secondaire. 25 000 à chaque école de la Valtrie. Et on avait... On nous disait qu'il y aurait une prochaine école. On avait réservé un 25 000 pour eux autres. Okay. Le tout donné sur une période de 3 ans. Et à la fin de la 3e année, si la 5e école n'était pas construite ou annoncée officiellement, le dernier 25 000 serait réparti à chaque école primaire et à de la rive, donc un 5 000 supplémentaire sur le dernier versement en 2027.
C'est important pour vous de penser aux jeunes, justement, en faisant ce legs?
Le but de la fondation, c'était pour les jeunes de la Valtrie. Les jeunes de la Valtrie et le groupe scout également en ont profité pendant 20 ans de la base de plein air parce qu'on offrait un prix vraiment dérisoire pour pouvoir louer chez nous. Fait que un coup que la fondation a été vendue, la fondation, c'était dans notre charte que ça aille aux jeunes de la Valtrie. Fait qu'à ce moment-là, on a justement rencontré des Samars, on a organisé de choses. C'est eux qui ont payé des frais d'avocat et on a pu donner l'entièreté de la somme aux jeunes de la Valtrie, dont 190 000 aux écoles.
Je vous sens un homme heureux derrière cette initiative-là, M. Mousseau. Ah,
mettons que je vous dirais que ce fut très dur que la fondation prenne fin, mais... Depuis 5 ans, là, mettons que j'ai réussi à pouvoir dire non à plusieurs autres choses. Fait que, oui, je suis un homme heureux et mon épouse aussi.
Monsieur Fontaine, un legs merveilleux, là, de la Fondation des Grands Sapins, des Grands Pins, pardon. On reçoit ça avec honneur.
Vraiment, puis surtout c'est donné par des gens d'un conseil d'administration de la Fondation des Grands Pins, des gens qui se sont impliqués depuis des années à la Valterie, entre autres dans le mouvement scout, tout ça, c'est des gens qui se sont beaucoup impliqués pour les jeunes. Une fois que la Fondation maintenant n'est plus, donc qu'il y a la préoccupation de réinvestir les sous que la Fondation avait dans la Fondation des Samans pour les écoles de la Valterie, c'est vraiment tout un legs pour les jeunes de la Valterie.
C'est d'investir dans l'éducation. Il y a les jeunes, mais aussi l'éducation dans des écoles qui ont besoin de faire des projets pour ces jeunes-là.
Tout à fait. Là, on avait la présence de jeunes du conseil d'établissement là, de l'école de la Rive. Donc, c'est vraiment le conseil d'établissement qui... ça, c'était le conseil étudiant. Donc, c'est des projets qui vont émaner des différentes équipes écoles qui vont pouvoir se réaliser grâce à ce don-là.
Et là, c'est un don qui va être réparti sur 3 ans. On ne reçoit pas tout d'un coup, là.
Tout à fait. Donc, 65 000 répartis sur 3 années pour l'école secondaire, 25 000 répartis sur 3 années pour chacune des écoles primaires.
C'est un gros plus pour les écoles. On s'attendait peut-être pas à ça, là.
Tout à fait. Dans le fond, avec les directions, on regardait, parfois, ça peut être des sorties qui vont être payées avec ça, des activités aussi qui vont avoir lieu à l'école, certaines fournitures en lien avec, justement, que les élèves puissent déployer dans les cours, tout ça, des activités physiques. Donc, vraiment, c'est un don vraiment intéressant pour les établissements de la Valterie.
Est-ce qu'on peut le voir d'une certaine façon comme un moyen aussi de valoriser l'éducation, d'encourager les jeunes à aller au-delà du secondaire puis poursuivre après même le primaire? Là?
Exactement, de poursuivre dans la persévérance scolaire, vraiment, c'est un don intéressant. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que c'est la formule des dons dédiés de la Fondation des Samans qui a été mise de l'avant en lien avec ce partenariat-là. Donc, la Fondation des Samans offre justement la possibilité à des fondations de soit transférer un don, transférer une fondation à la Fondation des Samans pour permettre vraiment ensuite que ces sous-là, s'assurer que ces sous-là soient vraiment utilisés dans le cadre éducatif de la persévérance scolaire dans les établissements des Samans. Fait que c'est une formule don dédiée qui est offerte par la Fondation des Samans qui est utilisée là, dans le cadre de ce don-là.
Bien, c'est un fichu de beau legs, 195 000 $ là, qui iront aux écoles primaires et secondaires pour la réalisation de projets. Là, on vient d'entendre Jonathan Fontaine, qui est directeur général adjoint au Centre de services scolaires des Samans. Il y a eu juste auparavant Claude Mousseau, ex-président de la Fondation des Grands Pins de la Valterie.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bon, faut faire attention, il y a des accumulations d'eau par endroits, ce qui fait que ça ralentit un petit peu la circulation. Là, métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est dense depuis l'avenue Réaumur, mais ça le demeure jusqu'à Henri Bourassa. La traversée est quand même facile là, vers la rive nord, secteur Repentigny. C'est assez lourd depuis le boulevard de la Rochelle jusqu'à Industriel. Pont-le-Gardeur, ouais, ben là, ça va quand même assez bien, que c'est facile par Sherbrooke et Notre-Dame, un peu dense sur le pont. La 25 Nord, oh, c'est presque depuis la métropolitaine, là, où c'est dense et ça le demeure, là, jusqu'au boulevard des Mille-Îles à Laval. Traverser quand même vers l'île Saint-Jean et Terrebonne, assez facile. Le pont Sophie-Masson, c'est lourd à l'entrée, mais pour la traversée, c'est assez facile, là, vers Terrebonne. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction est, pas si mal, un peu lourd, secteur de la montée des Pionniers, mais par contre, en direction ouest, il y a pas mal de monde, là, à partir de la montée des Pionniers, et ce, jusqu'à la montée du Mai. Les nouvelles dans un instant.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fascite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gauthier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes.
Salut, c'est la bottine souriante.
Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS.
Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles.
Si vous voulez partir, Nez Rouge vous ramène à la porte.
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Écoute en direct, actualités régionales, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Au cours de la dernière année, le gouvernement a fait plusieurs propositions au syndicat de médecins pour améliorer l'accès aux soins de santé. Malheureusement, toutes ces propositions ont été refusées. Devant l'urgence d'agir, le gouvernement a adopté une loi qui permettra à plus de Québécois d'avoir accès à un médecin de famille, notamment le soir et la fin de semaine, et de pouvoir consulter un médecin spécialiste plus rapidement, par exemple pour obtenir une chirurgie. Parce que notre priorité, c'est l'intérêt des patients. Un message du gouvernement du Québec.
Ce bulletin de nouvelles régionales vous est présenté par Alimentation au Croque, votre expert local en nutrition animale. Une équipe passionnée et à l'écoute des besoins de votre compagnon. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Matha et Saint-Gabriel-de-Brandon.
Il est 16h31, c'est l'heure des nouvelles avec Michel Arnois. Tout d'abord, Michel, $500 000 en publicité là pour la loi sur les médecins.
Oui, le gouvernement Legault qui a déboursé comme ça $547 400, voilà le chiffre exact, pour défendre son projet de la loi sur la rémunération des médecins. C'est ce qui ressort des factures obtenues par le Parti libéral du Québec par une demande d'accès à l'information. Donc, des fois, ça donne des résultats dont fait état le quotidien Le Soleil. Pour le porte-parole du Parti libéral, Marc Tanguay, c'est un gaspillage d'argent public. Cet argent aurait pu, selon lui, servir à embaucher 5 infirmières praticiennes spécialisées pour aider le réseau de la santé ou payer le salaire de Nicolas Bellemare. On ne sait pas, on ne sait jamais.
Tiens, on va parler du budget maintenant. Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, qui commente le budget.
Oui, il dénonce le budget fédéral marqué par une manœuvre comptable qui vise à maquiller un déficit sans précédent de 78 milliards de dollars. Le gouvernement Carney n'a pas répondu aux 6 exigences formulées par le Bloc, dont certaines demandes en agriculture, comme nous l'explique le député de Berthier-Masquinongé et qui, je vous le rappelle, est whip en chef Yves Perron.
Le programme de paiement anticipé, si je reviens à l'agriculture, on demandait que ce soit augmenté à 350 000 de façon permanente. Ça, c'est de l'argent que les producteurs agricoles vont obtenir dans certains programmes. Ils peuvent l'avoir d'avance sans intérêt. C'est à 100 000. C'est ridicule pour les tailles de fermes qu'on a aujourd'hui, là. Ben, à chaque année, le gouvernement se refuse de l'augmenter de façon permanente. Il attend toujours que les producteurs agricoles aillent les supplier pour l'avoir. Puis ça leur fait des belles annonces à faire à chaque année. C'est de la petite politique. C'est de garder les gens dans un état de dépendance. Est-ce qu'on peut régler des problèmes de façon permanente après ça, travailler sur d'autres choses?
M. Perron a aussi questionné les méthodes de calcul de certains aspects du budget.
Là, on a mis dans les actifs les transferts aux provinces. On a mis dans les actifs des dépenses courantes qui n'ont aucun rapport avec un actif.
En conséquence, et comme on pouvait s'y attendre, le Bloc québécois a indiqué qu'il voterait contre le budget Champagne.
Des observateurs qui disent que l'itinérance a été justement oubliée là, dans le budget Champagne.
Oui, l'Union des municipalités du Québec s'en désole alors que le phénomène qui en principe ne doit pas relever des villes prend de l'ampleur. On écoute le président et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
On peut faire une règle de trois, là. Plus qu'on achète du logement, plus qu'on peut enlever de l'itinérance, oui. Mais encore faut-il que ça l'avance rapidement parce qu'il manque énormément de logements pour contrer justement l'itinérance. Mais un ne va pas sans l'autre, pas parce qu'il y a de l'argent pour le logement qu'il ne devrait pas en avoir pour aider les gens à s'occuper de l'itinérance et les organismes communautaires, les villes. Maintenant, ben, on va laisser le temps. Peut-être qu'il y a des petits programmes, là, que le gouvernement va annoncer au moment opportun, mais.
Et sur la scène culturelle maintenant, fréquentation du Musée d'art de Joliette qui se diversifie.
Oui, la direction du Musée d'art de Joliette met en perspective, dis-je bien, une information récente diffusée par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Il indique qu'en 2024, la fréquentation totale des institutions muséales au Québec a atteint environ 13,3 millions d'entrées, un résultat semblable à 2023, mais un recul de 13 % par rapport à la moyenne pré-pandémique.
Ah, oui, oui.
Entre 2015 et 2019, il y avait beaucoup plus de gens qui se rendaient au musée, mon cher. La directrice générale et conservatrice en chef, Annie Gauthier, interprète le phénomène comme une évolution du rapport entre les citoyens et leurs institutions, parce que depuis quelques années, le musée a multiplié les initiatives hors des murs du musée, c'est-à-dire dans les parcs, dans les écoles, les lieux communautaires, afin d'aller à la rencontre des publics là où ils se trouvent.
Le musée sort, autrement dit.
Oui, donc, ça peut avoir un effet secondaire, une diminution du nombre de visiteurs à l'intérieur du bâtiment.
On arrive à les retrouver d'une autre façon.
C'est ça, c'est un indicateur qui ne reflète plus à lui seul la vitalité ou la pertinence d'un musée d'aujourd'hui. Voilà, ça complète. Plus d'informations sur le site Internet, cfng.net.
Merci, Michel Arnois. Il est 16h35.
Au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
Et on va maintenant, parler de la CSN Lanaudière. Il y a des militants, militantes qui prennent part à une action de mobilisation pour dénoncer les actions du gouvernement caquiste à l'égard des travailleuses, travailleurs dans tout le Québec. Et François Morin a eu l'occasion de s'entretenir là-dessus avec le vice-président du Conseil central Lanaudière de la CSN, Martin Haché.
Donc, Martin Haché, vous êtes le vice-président du Conseil central CSN Lanaudière et par voie de communiqué, vous indiquez qu'il y a mobilisation des troupes parce que là, on comprend qu'il y a un ras-le-bol du gouvernement de la CAQ.
Oui, exactement. Dans le fond, la CSN, on débarre la campagne Fasseron, là, qui est la campagne qui ensuite du PL 89, maintenant loi 14, là, qui vise un vent de front là, face au syndicat, au mouvement syndical dans son ensemble. C'est sûr que la campagne, dans le fond, on est à la phase 1 de cette campagne de mobilisation. Dans le fond, la campagne a trois sujets là, qu'on s'attaque au niveau de en termes de priorité. Là, que, au début, c'est simplement de faire front pour les travailleuses et travailleurs. En fond, tout ce qui implique les projets de loi, les reculs qu'on a eus dernièrement, ainsi que les projets de loi à venir là, qui vont être déposés, et qui s'attaquent au mouvement syndical. Il y a aussi, dans le fond, le faire front pour l'État social, tout le filet social. On voit les coupures dans plusieurs secteurs, ce qui n'aide en rien là, à l'avancement d'une bonne classe sociale et mouvement syndical dans son ensemble qui concerne tous les citoyens et citoyennes au fond.
Est-ce que, comme la plupart des autres syndicats, vous faites le constat que le gouvernement a fait des erreurs stratégiques au niveau de ses investissements?
Bien, c'est certain que nous, d'emblée, on voit les mouvements du gouvernement comme une stratégie de diversion là, pour éviter de s'attaquer aux réels problèmes là, qui concernent que ce soit les enjeux sociaux, le logement, l'éducation, la santé. On peut pas voir sur les scandales comme Saclic puis Nordvolt. Là, fait qu'on voit vraiment des mouvements du gouvernement qui cherchent à faire une diversion. Lorsqu'on cherche à faire face à ces enjeux-là, là, qui est des erreurs monumentales du gouvernement, qui ont des impacts majeurs pour les finances publiques.
Je sais qu'il y aura une grosse manifestation du côté de Montréal à la fin du mois, le 29 novembre précisément, mais en attendant, est-ce que des actions qui se font, des actions de sensibilisation auprès de la députation régionale?
Oui, en région... C'est certain que c'est dans le fond, la campagne Faire Front, c'est une campagne CSN, mais il y a aussi pour la manifestation du 29 novembre, là, dans le fond, régionalement, d'ici au 29 novembre, il va y avoir des activités aussi qui sont autant de toutes les autres en intersyndical. C'est sûr que on a des revendications qui sont plus régionales avec les enjeux de nos syndicats locaux. mais éventuellement, c'est la manifestation du 29 novembre qui va être le signal fort envoyé au gouvernement.
Et cette manifestation-là du 29 novembre, on vient de le dire, est organisée par la CSN, mais ce ne sont pas seulement les membres de la CSN là, qui pourront y assister.
Non, ça, dans le fond, ça implique tout le monde. Là. Fait qu'autant en intersyndical, mais au-delà de tout ça, on se rappelle toujours que les efforts syndicaux qui sont menés concernent tout le monde, donc s'adressent à tous les citoyens. Tout le monde est invité à participer en grand nombre à cette manifestation qui est, dans le fond, qui s'adresse à tout le monde, puis qui a un impact majeur, là, dans le fond, là, qu'on veut envoyer, là. Comme signal fort, là, autant pour s'assurer bon que le gouvernement de la CAQ ne soit pas réélu, mais d'envoyer un message fort aux prochains partis qui vont prendre le gouvernement, dans le fond, de reculer là, sur les projets de loi. Là, si on parle de la loi 2, PL 89, maintenant loi 14, c'est vraiment assez d'enjeux publics et ça concerne tous les citoyens et citoyennes.
Bon, vous avez devancé ma question. J'allais vous demander justement qu'il y a quand même un an d'attente là, avant de voir un nouveau gouvernement. Mais là, en terminant, est-ce qu'on pourrait rappeler ou spécifier là, où aura lieu la manifestation à Montréal?
Oui, la manifestation à Montréal là, va se tenir le 29 novembre à 13h30 le samedi à la Place du Canada à Montréal.
Voilà, c'était Martin Haché qui est vice-président du Conseil central Lanaudière de la CSN, là, les membres qui prennent part à une action de mobilisation pour dénoncer les actions du gouvernement caquiste à l'égard des travailleuses et travailleurs du Québec. Il est 16h41. Dans un moment, Pierre Paquette.
Ménage Providence, votre partenaire de confiance pour une propreté sans bon sens. Vous rénovez? On nettoie. Après construction ou rénovation, confiez-nous le ménage et profitez de votre espace sans souci. Suivez-nous sur Facebook et appelez Ménage Providence au 450-750-9912. Oui, 450-750-9912. Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Hyacinthe, Ultramar, sur la rue La Framboise, à Sainte-Marjorique, Les Campagnards, Marché Urbain, à Saint-Nicéphore, Pharmacie Jean Coutu, Dépanneur Voisin, à Saint-Cyril de Wendover, Marché du Puy Saint-Cyril, à Victoriaville, Dépanneur Voisin, Canadian Tire Essence Plus, Dépanneur Pidis, Groupe Vivaco, Pharmacie Uniprix sur la rue de l'Aqueduc, Ballon Style, à Sainte-Clotilde de Horton, Marché Ami, à Princeville, Pharmacie Family Prix, à Saint-Léonard d'Aston, Pharmacie Family Prix Isabelle Fleurant. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Saviez-vous qu'avec Promutuelle Assurance, une soumission en ligne se fait encore plus vite qu'un café latté? Gagnez du temps là, avec notre soumission en ligne rapide. En seulement 4 minutes, vous obtiendrez un prix pour assurer votre auto, maison, condo, appart, moto, motoneige, VR ou tout autre véhicule. Des prix qu'on aime, vite de même, c'est pas étonnant qu'on nous recommande autant. Demandez dès maintenant votre soumission en ligne sur promutuelleassurance.ca/rapide. Les conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance et la 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 la!
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant la liquidation totale Nissan, prenez le volant d'une Sentra S Plus 2025 en location 60 mois pour seulement 75 $ plus taxes par semaine, sans aucun comptant initial. Faites vite et profitez de rabais incroyables sur nos modèles 2025. Passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette et découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Je vous invite à être à l'écoute des après-midi de Claudine pour découvrir un concours exclusif aux membres de CFNJ en collaboration avec Son X Plus Joliette. Je ne vous en dis pas plus, soyez avec moi, soyez à l'écoute du lundi au jeudi de 13h à 16h dans les après-midi de Claudine pour tout savoir sur le concours Son X Plus Joliette, exclusif aux membres de CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Ben, salut Pierre! Oh, on l'entendait pas, on va l'entendre un petit peu mieux de cette façon-là. Voilà, Pierre, je l'ai retrouvé. Salut!
OK.
Ça va, bon, là.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Les libéraux à Ottawa à 2 sièges de la majorité.
Oui, c'est étonnant, là, mais c'est la réalité de la politique. Alors, Chris d'Entremont qui a décidé de passer des conservateurs aux libéraux. Faut dire que c'est un conservateur, un progressiste conservateur plus qu'un conservateur. Là,
c'est ce qu'on appelle les Red Tories.
Exactement. Et donc, il était pas mal à l'aise de passer des conservateurs aux libéraux, d'autant plus que le budget, bon, tout le monde le considère quand même assez conservateur, justement. Mm-hmm. Alors, en plus, il faut se rappeler que son comté, sa circonscription, il a gagné par 1,1% de vote.
Ouais,
c'est
ouais.
un comté où les libéraux sont en bonne seraient en bonne position. Donc, d'une certaine façon, il s'assure aussi probablement sa réélection lors de la prochaine élection. Il y a un autre député, celui-là, c'est un petit peu plus étonnant, mais le député d'Edmonton, là, Matt Generous, qui se trouve être en Alberta, qui lui aussi songe à quitter le Parti conservateur pour aller du côté des libéraux. Et là, ça donnerait 71 députés.
Ouais, là on serait à égalité, là.
Oui, serait pas mal, ouais, exactement. Et ce serait le président de la Chambre qui trancherait à ce moment-là. Et bon, on imagine que le président de la Chambre trancherait du bon côté, du côté des libéraux. Alors, donc, c'est vraiment une situation assez inédite, malgré que c'est pas la première fois que ça arrive. On s'en parlait, là. Il y a eu le cas de Belinda Stronach.
Oui, par le passé.
Qui avait passé en 2005 des conservateurs aux libéraux dans à peu près dans les mêmes circonstances.
Ça, c'était et à l'époque plus... de Paul Martin. Cette femme-là, ben, c'était une femme qui était au Parti libéral de Stephen Harper à l'époque et elle était en faveur de l'avortement. Elle était en faveur également du mariage gay pour le contrôle des armes à feu. Alors donc, logiquement, elle se retrouvait chez les libéraux. Ça a été facile pour elle de transférer, là.
Oui, mais ça. Pour la petite histoire, là, pour ceux qui s'en rappellent, elle était quand même la petite copine de Peter McKay,
oui,
qui est l'ancien chef du Parti
vrai,
conservateur.
C'est vrai.
Et ça avait fait quand même un certain traumatisme sur la colline parlementaire.
Parce que là, il y avait un couple dont donc il y avait une conservatrice et un libéral qui étaient ensemble.
Alors c'est ça. Mais là, ça n'a pas duré. Là,
non.
Ce que j'ai pu voir récemment, c'est que plus avec Peter McKay.
Quelle triste
mais,
nouvelle.
Ça avait quand même détrayé les manchettes.
Bon,
donc on est dans une situation qui est pas inédite, mais qui est quand même assez assez rare de voir certains députés d'un parti d'opposition flirter avec le parti au pouvoir.
Et là, ce qui est particulier, Pierre, c'est que c'est très serré actuellement.
Exactement.
Je disais, les libéraux sont à 2 sièges de la majorité. Et là, Chris d'Entremont, là, qui, lui, a claqué la porte du Parti conservateur pour une bien simple raison. Il n'aime pas carrément Pierre Poilievre, sa façon de gouverner, en fait, sa façon de diriger le parti, ses idées qui sont très trumpistes, on pourrait dire, là, si je peux m'exprimer ainsi. Les politiques négatives de Pierre Poilievre.
Je pense que ça a sorti récemment contre la GRC, contre Trudeau, en disant que si la GRC avait fait son travail, ben, Trudeau serait en prison. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend de Trump
tous les
jours.
Ça.
Alors, je pense pas que si tu es un Red Tory comme lui l'est, tu es bien à l'aise avec cette situation-là. Alors, donc, c'est... Mais il en manque toujours... au moins 2.
Des Red Tories, il y en a encore et on les retrouve particulièrement dans les provinces maritimes.
Ces
conservateurs progressistes qui pourraient peut-être avoir peut-être une opportunité de se retrouver du côté du Parti libéral, se faire promettre par exemple un poste de ministre éventuellement. C'est certain que là, il y aura un jeu de grande séduction de la part du Parti libéral dans les prochaines semaines, des prochains mois, pour obtenir une majorité. Et il ne faut pas oublier aussi, Pierre, qu'il y a quand même 7 députés au NPD qui peut-être pourraient aussi faire le show. Là.
J'allais le dire, parce que tu sais, entre NPD et libéraux, il n'y a pas une grosse différence.
Oui, mais par contre, faut rappeler que Mark Carney a recentré le Parti libéral.
Oui, mais même à ça, là, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'affinités entre certains membres du caucus NPD et les libéraux peut-être plus à gauche, qui sont quand même très présents au sein du Parti libéral. Et donc, il pourrait très bien y avoir un ou deux députés NPD, d'autant plus que leur situation elle est quand même assez tragique. Là, ils n'ont pas de chef. Ils semblent pas avoir personne là, de charismatique qui va venir à leur rescousse. Donc, peut-être que des considérations plus, je dirais, terre-à-terre, genre ma prochaine réélection, vu qu'on est en gouvernement minoritaire, on risque d'avoir des élections en tout temps. Alors que si on était en gouvernement majoritaire, c'est-à-dire que si Mark Carney était capable d'aller chercher deux ou peut-être trois députés, que ce soit chez les conservateurs et le NPD, je n'ose pas parler du Bloc parce que j'espère que personne n'y pense.
Non.
Mais à ce moment-là, on serait en gouvernement majoritaire et donc on en aurait pour 4 ans.
Mais c'est clair que le Bloc québécois votera pas pour le budget. Et là, c'est la question qui reste, là, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on partira pas clairement en élection. Là, avec deux sièges, il y a certainement le NPD qui va voter du côté du gouvernement libéral, puis peut-être même quelques conservateurs qui pourraient transférer, justement, qui pourraient en profiter de ce vote-là pour transférer là au Parti libéral.
Oui, mais il peut y avoir aussi une situation où, par exemple, le NPD se présente pas en chambre. Je sais qu'ils peuvent voter partout, mais avec simplement, je sais pas moi, le WHIP, par exemple, qui vote contre le budget. Alors donc, le NPD a voté contre le budget, mais les autres députés sont pas là pour voter, et puis on n'est pas capable de les rejoindre. C'est qu'à ce moment-là, ben le budget va passer. Alors, il y a plusieurs autres possibilités en termes parlementaires pour éviter des élections. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que il est peu probable qu'on ait des élections pendant le temps des fêtes.
Mais c'est une joute politique passionnante qui se dessine présentement à Ottawa, Pierre.
Exactement. Mais je pense que le grand perdant dans toute la situation actuelle, c'est Poilievre. Parce que manifestement, lui, un vote de confiance, il va avoir un vote de confiance
en janvier.
Au mois de janvier.
Ouais.
Et puis là, ça augure très mal. Là. Ne serait-ce que ce départ-là aujourd'hui a affaibli énormément son leadership. Alors, je parierais pas sur sa survie politique comme chef du Parti conservateur.
Merci, Pierre Paquette.
Merci.
Bonne soirée. Demain, vous serez en compagnie de Michel Arnoir. Oui, c'est Michel qui anime l'émission. On se retrouve lundi matin. Je resalue et remercie nos collaborateurs à l'émission, François Morin, Régent Turgeon, Michel Arnoir, Pierre Paquette. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à Nicolas Bellemare qui s'amène de l'autre côté de l'actualité de 17h. Pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Puis entre-temps, manquez pas dans un tout petit moment, Hugo Valiquette avec La vie dans Lanaudière. Là-dessus, bonne soirée et on se retrouve lundi prochain à 16h.